Vous écoutez, on lit pour vous.
Une révolution médicale à nos portes, des vaccins anti-cancer en phase d'essai dès 2026, un texte de Véronique Morin paru le 18 novembre 2025 dans le Journal de Québec. Des chercheurs québécois développent des vaccins anti-cancer prometteurs qui entreront en phase d'essai dès l'an prochain. Existe-t-il à l'heure actuelle des vaccins efficaces contre les cancers? La réponse courte est non. Mais la recherche dans le domaine foisonne, impliquant des milliers de chercheurs dans le monde et des investissements de milliards de dollars. L'idée d'un vaccin qui pourrait un jour traiter des cancers est passée de l'utopie à un domaine de recherche sérieux en 2010, date à laquelle le Dr James Allison de l'Université du Texas annonçait avoir développé une nouvelle méthode de lutte contre le cancer en traitant le système immunitaire plutôt que la tumeur. Cette approche lui a valu le prix Nobel de la médecine en 2018. C'est là que la course mondiale a commencé, raconte le Dr Claude Perrault de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, IRIC, rejoint par téléphone. Selon lui, c'est à ce moment que les recherches pour découvrir ce que le système immunitaire pouvait voir sur les cellules cancéreuses ont réellement débuté. Le but? Développer des vaccins anticancéreux qui, contrairement aux vaccins traditionnels qui préviennent les maladies infectieuses, viseraient à stimuler le système immunitaire pour qu'il cible et élimine les cellules cancéreuses. À l'époque, le Dr Perrault et son collègue chimiste Pierre Thibault travaillaient déjà à élucider les mystères du système immunitaire et la nature des antigènes présents dans les tissus sains de chaque individu. Depuis les années 2000, on savait aussi qu'une des fonctions normales du système immunitaire était d'éliminer les cellules cancéreuses naissantes. Bref, nous sommes tous porteurs de cancers naissants, mais heureusement, le système immunitaire intervient rapidement pour protéger d'une prolifération de cellules cancéreuses. Avec la découverte de l'approche immunitaire pour combattre les cancers, les recherches ont pris un tournant. Ça a commencé pour moi aussi, raconte le professeur et chercheur Claude Perrault, aujourd'hui une sommité dans le domaine. Il s'est donc mis à chercher les antigènes spécifiques du cancer. Les antigènes cancer spécifiques sont des molécules qui peuvent être reconnues par les cellules immunitaires et qui sont présentes exclusivement sur les cellules tumorales et non sur les cellules saines. Ça m'obsède totalement, confie le Dr Perrault, qui est convaincu que la recherche d'antigènes spécifiques est la clé au développement des vaccins anticancéreux. Sauf que, puisqu'ils sont spécifiques, il fallait trouver une méthode pour identifier des récurrences communes à chaque individu. Son obsession porte ses fruits, puisqu'en 2018, lui et son équipe publiaient dans la revue Science Translational Medicine un article qui démontrait la source des antigènes tumoraux et la technique par laquelle ils ont réussi à les identifier. En utilisant un spectromètre de masse pour analyser la composition chimique des tissus de tumeurs, lui et son équipe découvrent des similarités moléculaires d'un tissu cancéreux à un autre selon le type de cancer. Selon l'étude, les antigènes identifiés sont partagés avec de 20 à 100% des autres tumeurs d'un même type de cancer, ce qui permettrait, potentiellement, de déclencher une réponse immunitaire importante sur un grand nombre d'individus souffrant de cancer. Cette année, en avril 2025, la revue Nature Cancer publiait une autre de ses avancées importantes en lien avec les antigènes tumoraux et le cancer du poumon. Les gens trouvaient ça martien, et il a fallu donner des preuves considérables. On a affronté pas mal de scepticisme de la part des scientifiques, avoue le Dr Perrault en lien avec la multitude de publications que son équipe a produites portant sur son approche de détection d'antigènes cancer spécifiques. la grande quête d'un traitement anticancéreux sous forme de vaccin qui permettrait de guérir des patients atteints de divers types de tumeurs prend plusieurs formes. À l'Université Harvard, par exemple, les chercheurs utilisent une technique tout autre qui consiste à effectuer le séquençage d'une partie du génome pour prédire des mutations. C'est une mauvaise méthode qui donne 95 % de faux positifs, tranche le docteur Claude Perrault. Nous, on ne les prédit pas. On obtient leur composition chimique moléculaire grâce à la spectrométrie de masse, précise-t-il. Récemment, d'autres avancées captaient l'attention médiatique avec le vaccin de Moderna contre la COVID pouvant stimuler le système immunitaire pour combattre des cancers. On rapportait le cas très médiatisé durant la pandémie d'un patient atteint d'un cancer de stade 4 dont la tumeur aurait régressé après avoir reçu le vaccin en question. Un espoir rapporté en octobre 2025 comme une percée par le Congrès européen d'oncologie. Ce type de vaccin peut avoir un effet anticancer limité avec des bénéfices modestes, mais on ne parle pas de guérison, insiste le docteur Perrault. Nous, on vise la guérison. Et qu'en est-il des vaccins thérapeutiques comme le sipuleucel T, Provenge, pour traiter le cancer de la prostate avancé qui s'est métastasé? Ces vaccins visent aussi à stimuler le système immunitaire pour qu'il attaque les cellules cancéreuses. C'est un vaccin d'homme des cavernes, ne se gêne pas pour dire le docteur Perrault. Malgré les espoirs fondés sur ce nouveau vaccin, les résultats seraient limités parce que les antigènes qu'il contient ne sont pas spécifiques au cancer. Des efforts sont aussi mis sur la prévention de certains types de cancers, comme avec le vaccin contre le papillomavirus humain, VPH, qui est un moyen de protection contre certains virus qui peuvent provoquer des lésions précancéreuses et des cancers du col de l'utérus, de l'anus, etc. Mais la prévention ne porte ses fruits que plusieurs années plus tard. Il faut être pragmatique en prévention de tous les cancers. C'est irréalisable, estime le chercheur de l'IRIC. Aujourd'hui, il affirme être très près du but, si près que plusieurs demandes de brevets ont été déposées pour tous les antigènes de la plupart des types de cancers. Une compagnie a été créée, Epitopea, financés au Canada et en Grande-Bretagne, et des tests de phase 1 pour vérifier l'innocuité de nos vaccins vont commencer dès 2026 et en 2027, on vérifie l'efficacité des vaccins. Ça fonctionne avec les souris et on espère que ça fonctionne avec les humains aussi, conclut-il. C'était une révolution médicale à nos portes. Des vaccins anticancers en phase d'essai dès 2026. Un texte de Véronique Morin paru le 18 novembre 2025 dans le Journal de Québec.
Ce que m'a coûté mon examen gratuit. Un texte de Julianne Boyd paru le 6 novembre 2025 dans La Presse. Récemment, je devais subir une colonoscopie à l'hôpital de Verdun. Un examen banal, mais essentiel pour prévenir le cancer colorectal, la deuxième cause de mortalité par cancer au Canada, selon la Société canadienne du cancer. Comme tout patient, j'ai reçu les instructions officielles. Suivre une diète précise, acheter deux produits de préparation intestinale et respecter les horaires à la lettre. Le message du courriel de l'hôpital était clair. Si la préparation n'est pas conforme, l'examen sera annulé. Rien d'anormal jusque-là. Mais le choc est venu à la pharmacie. Croyant que ces produits nécessitaient une ordonnance, je me dirige vers le comptoir. La technicienne m'indique plutôt qu'ils sont en vente libre et me conduit vers les allées. Première surprise. Elle me remet les deux produits exigés. Deux sachets de Picosalax et une bouteille de Citromag clair, tel qu'indiqué dans le document officiel de l'hôpital. À la caisse, je tends ma carte d'assurance, convaincu qu'une partie des coûts sera couverte. Deuxième surprise, la facture affiche 61,83 $ sans aucune possibilité de remboursement. 61 $ pour avoir accès à un examen crucial, pourtant assuré par la RAMQ, mais sans aucune couverture. C'est là que le problème se révèle. L'accès aux soins publics n'est pas aussi universel qu'on le prétend. Un coût caché. Pour plusieurs, 61 $ peuvent sembler un détail. Pourtant, selon Statistique Canada, près d'un Québécois sur 10 vit sous le seuil de la pauvreté et plus de 40% des ménages n'ont pas la capacité d'assumer une dépense imprévue de 500 $. Dans ce contexte, 60 $ n'est pas une somme anodine. C'est parfois l'équivalent d'une semaine d'épicerie, d'un plein d'essence ou d'un paiement de facture. Heureusement, j'ai la capacité de payer cette somme. Mais ce privilège n'est pas donné à tous. Beaucoup de gens vivent dans une précarité telle qu'un montant comme celui-là peut suffire à retarder un examen pourtant essentiel. Et chaque retard augmente le risque de diagnostiquer trop tard un cancer colorectal qui tue environ 9 400 Canadiens chaque année, selon la Société canadienne du cancer 2024. Traiter un cancer colorectal coûte en moyenne plus de 40 000 $ par patient au système de santé publique, selon l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, selon l'INES. Prévenir la maladie par un simple examen revient donc infiniment moins cher, humainement et financièrement. Le paradoxe est frappant. On finance la procédure médicale, les médecins, les infirmières, le matériel sophistiqué, mais pas les produits sans lesquels l'examen est impossible. L'hôpital lui-même insiste sur ce point. La préparation est extrêmement importante pour un examen de qualité. L'intestin ne doit pas contenir de sel, sinon l'examen sera repris. Autrement dit, sans cette dépense de 61 $, le soin public devient inaccessible. L'universalité en question. Ce genre de situation révèle un glissement inquiétant, celui d'un système public qui devient graduellement conditionnel. Conditionnel à la capacité de payer, à la proximité d'une pharmacie, à la compréhension des consignes écrites en jargon médical. C'est une inégalité subtile, mais réelle. Pour une personne en difficulté financière, ces exigences peuvent suffire à retarder un examen ou à y renoncer. Ces petits obstacles, mis bout à bout, finissent par créer des barrières silencieuses qui excluent les plus vulnérables. Et plus ces obstacles s'ajoutent, plus on s'éloigne du principe fondateur de notre système de santé, l'équité. Si le Québec juge qu'un examen est médicalement nécessaire, il doit aussi en assumer toutes les composantes, y compris la préparation. La solution n'est pas compliquée. Offrir gratuitement ces produits sur ordonnance hospitalière ou permettre leur remboursement par la RAMQ, comme c'est déjà le cas pour d'autres traitements essentiels. Cette mesure coûterait peu à l'État, mais changerait beaucoup pour les patients. Elle serait surtout cohérente avec la promesse du système public « soigner sans distinction de revenus ». Mon expérience personnelle n'a rien d'exceptionnel. Elle reflète simplement un angle mort de notre système, celui des coûts périphériques qui grugent tranquillement le principe d'équité. 60 $, ce n'est pas grand-chose pour certains, mais pour d'autres, c'est tout ce qu'il faut pour renoncer à un examen qui peut sauver la vie. Un système de santé vraiment universel ne devrait jamais placer ce choix entre la santé et le portefeuille. C'était ce que m'a coûté mon examen gratuit. Un texte de Julianne Boyd, paru le 6 novembre 2025 dans La Presse.
Québec doit encadrer et soutenir le stockage de carbone, affirme son comité sur le climat. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 11 novembre 2025 dans Le Devoir. Le gouvernement du Québec doit soutenir le développement du stockage de carbone et établir un cadre réglementaire pour cette activité, recommande le Comité consultatif sur les changements climatiques, CCCC, dans un rapport rendu public mardi le 11 novembre 2025. Soutenir le développement des filières de séquestration permanente de CO2 est essentiel pour respecter la trajectoire vers la carboneutralité, écrivent les experts indépendants, des professeurs d'université en majorité, qui présentent un nouvel avis dans le cadre de la révision de la cible climatique de 2030. La séquestration, dite permanente de CO2, repose sur des options de stockage parmi lesquelles on compte la croûte terrestre et les matériaux solides, comme le béton. On la distingue de la séquestration temporaire, fondée sur la nature, qui implique de stocker du carbone dans les forêts ou les sols, par exemple. Les deux types de séquestration, permanente et temporaire, auraient besoin d'un cadre réglementaire, croit le CCCC. Un tel cadre garantirait leur intégrité environnementale. Il permettrait aussi une mise en œuvre soutenue, quoique progressive, de la séquestration carbone au Québec, qui jouerait un véritable rôle à partir de 2030. Les politiques publiques devront clairement souligner que les stratégies de séquestration ne sauraient se substituer à la réduction rapide et massive des émissions de GES, gaz à effet de serre, ni au remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables, précise-t-on dans le rapport. Le scénario de carboneutralité envisagé pour 2050 par Québec prévoit la réduction de 85 % des émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990. Selon le comité, il est important que les 15 % résiduels soient compensés exclusivement grâce à des projets de séquestration permanente et non de séquestration temporaire. Les experts du CCCC soulignent que les solutions fondées sur la nature, comme le boisement et la restauration de milieux humides, ont des bénéfices pour le climat et la biodiversité, mais qu'elles demeurent vulnérables au relâchement inopiné de leur carbone, par un feu de forêt par exemple, et qu'elles ne doivent donc pas compenser des émissions fossiles. Dans son rapport, le comité invite le gouvernement à soutenir le développement technologique de la séquestration permanente, à réduire les obstacles à l'adoption et à mettre en place des projets pilotes pour évaluer l'efficacité de ces solutions technologiques qui demeurent immatures à grande échelle. Le rapport mentionne une seule entreprise, Deep Sky, qui développe actuellement un projet de séquestration de carbone à Thetford Mines. Le Devoir rapportait récemment que cette société attend l'élaboration d'un cadre réglementaire à Québec pour aller de l'avant. Cible zéro émission nette pour les terres. Toutefois, même si les forêts, les produits forestiers, les champs et les tourbières ne permettent pas de compenser durablement les émissions issues des combustibles fossiles, le gouvernement doit en tenir compte, déclare le CCCC. En fait, ces options de séquestration appartiennent à un secteur qui, contrairement à la croyance populaire, est actuellement une source d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Entre 1990 et 2022, le secteur dit de l'affectation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, ATCATF, a généré des émissions annuelles moyennes de 14 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 16 % des émissions directes des Québécois. Rappelons que le secteur de l'ATCATF n'est pas inclus dans l'inventaire principal des GES. Pour contrer cette source de carbone dans l'atmosphère, les experts recommandent à Québec de se doter d'une stratégie qui miserait sur l'allongement de la durée de vie des produits de bois et sur une gestion des forêts et des terres cultivées, favorisant l'absorption de carbone. Et ils incitent aussi le gouvernement à adopter une cible de zéro émission nette pour le secteur de l'ATCATF en 2045. C'était « Québec doit encadrer et soutenir le stockage de carbone », affirme son comité sur le climat, un texte d'Alexis Riopel paru le 11 novembre 2025 dans Le Devoir.
Les parcs nationaux changent de visage. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir. Les parcs nationaux canadiens changent de visage en raison des changements climatiques qui bouleversent la faune et la flore de ces immenses espaces verts, entraînant notamment la multiplication des feux de forêt et des espèces invasives. Les experts sont toutefois divisés sur les interventions humaines nécessaires ou non pour limiter les répercussions des bouleversements en cours dans ces sites emblématiques. Des impressionnants glaciers et monts enneigés du parc national Kluane au Yukon, en passant par les falaises du parc national de Forillon en Gaspésie et les randonnées à couper le souffle que propose le CIF de Banff en Alberta, les parcs nationaux du pays sont visités chaque année par des dizaines de millions de visiteurs locaux et de touristes provenant des quatre coins du monde. Ces paysages idylliques, en apparence paisibles, font toutefois face à d'importantes transformations dans le contexte des changements climatiques. Le glacier Athabasca, dans le parc national Jasper, recule aujourd'hui d'environ 5 mètres par année et pourrait avoir complètement disparu en 2100, tandis que la plage du parc Forillon est menacée par la montée des eaux, indique Parc Canada sur son site Web. La saison des feux de forêt, déjà bien amorcée cette année dans l'Ouest canadien, brûle pour sa part des territoires de plus en plus vastes au pays, tandis que des insectes exotiques et des plantes envahissantes menacent le maintien de couverts forestiers, le poumon vert des parcs nationaux. Ce à quoi s'ajoute la surabondance de certains herbivores, comme le castor et le cerf, qui bouleversent également un écosystème naturel déjà fragilisé par des inondations et des sécheresses plus fréquentes. Ainsi, les parcs nationaux changent de visage, relève en entrevue Sylvain Delagrange, professeur en écologie fonctionnelle et écophysiologie végétale à l'Université du Québec en Outaouais, UQO. Beaucoup d'entre nous auront l'impression que les changements climatiques auront changé l'identité de nos parcs nationaux, note lui aussi Kai Chan, professeur à l'Institut des ressources de l'environnement et du développement durable de l'Université de la Colombie-Britannique. Et c'est normal que les gens soient alarmés par ça. Aider les parcs à s'adapter. Dans ce contexte, Christian Messier, professeur en aménagement forestier et biodiversité à l'UQO, se demande s'il ne faudrait pas intervenir dans nos parcs nationaux, dans nos aires protégées, pour augmenter la résilience de ces forêts-là. En entrevue, il indique que le climat et les migrations de nombreuses espèces animales du sud vers le nord surviennent à un rythme bien plus élevé que celui de l'adaptation de la forêt existante dans nos parcs nationaux à ces changements. Il appréhende ainsi un déclin important de la biodiversité de nos parcs nationaux. Les espèces d'arbres de nos forêts sont mal adaptées à ces nouvelles conditions climatiques et peuvent être affectées par des insectes ou des maladies, poursuit M. Messier, qui plaide pour la plantation dans nos parcs nationaux d'espèces d'arbres provenant de secteurs plus au sud, où la végétation est plus résistante à cette déréglementation de notre climat. L'érable à sucre du Minnesota, plus adapté aux sécheresses, pourrait par exemple être introduit au Québec, explique-t-il. On fait face à des stress qui sont hors du commun et on a peur que nos écosystèmes ne soient pas toujours en mesure de résister ou de s'adapter à ces nouvelles conditions-là, relève l'expert. Donc, est-ce que c'est toujours sage, aujourd'hui en 2024, de dire que le seul fait d'avoir des aires protégées et de ne pas intervenir, ça va protéger nos parcs à court terme? Demande M. Messier. J'ai l'impression qu'on a une obligation d'intervenir, répond Kai Chan, selon qui il y a beaucoup de cas où la migration assistée d'espèces d'arbres a beaucoup de sens, afin d'aider les écosystèmes de nos parcs nationaux à s'adapter au changement climatique. Ce n'est pas une bonne idée. Cette position favorable à une intervention humaine dans nos forêts ne fait toutefois pas l'unanimité, bien au contraire. Ce n'est pas une bonne idée, tranche sans détour le professeur Sylvain Delagrange. Il y a certaines interventions qui pourraient être intéressantes si elles sont très réfléchies et localisées, mais dans la grande majorité des cas, je ne vois pas de bonne raison d'intervenir dans ces territoires-là, ajoute-t-il, en référence aux parcs nationaux et aux aires protégées. En effet, en intervenant dans ces espaces verts, on prend le risque de nuire à l'adaptation de nos forêts aux effets des changements climatiques, relève-t-il. Il n'y a rien qui dit que la nature va faire moins bien que ce qu'on fait, nous, soulève le professeur. Il relève par ailleurs le risque que des interventions humaines dans des parcs nationaux pour y planter des espèces d'arbres d'une autre provenance y accélèrent par exemple l'introduction d'insectes ou des maladies, contribuant au déclin du couvert forestier. Si on intervient partout avec une méthode d'intervention et qu'on se rend compte que c'est la mauvaise, je trouve que c'est un danger, souligne celui qui préfère être optimiste quant à la capacité de nos forêts à s'adapter au changement climatique. La nature va installer des choses qui vont être durables et qui vont fonctionner, pense-t-il. Pour moi, c'est un peu une occasion de voir comment la nature va s'adapter à ça, ce qui va s'installer là. Ce que ça va devenir, ajoute l'expert. Des refuges. Sylvain Delagrange ne s'oppose pas cependant aux mesures de restauration que prennent parfois Parc Canada et la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC. Ce sont par exemple quelques centaines de rainettes faux-grillons qui ont été relâchées dans les dernières années dans des étangs conçus sur mesure pour répondre à leurs besoins dans le Parc national du Mont-Saint-Bruno, où cette espèce en voie de disparition n'était plus présente depuis des années. La CEPAC a par ailleurs procédé à la plantation de quelques milliers d'arbres au Parc national de Plaisance, en Outaouais, après que le nerf-prun cathartique, une plante associée à la mortalité des frênes, y ait fait des ravages. Kai Chan estime d'autre part que les changements climatiques ont montré le rôle crucial que jouent les parcs nationaux comme refuge pour les nombreuses espèces animales et végétales qui migrent vers d'autres territoires afin de s'adapter à ces bouleversements. L'expert plaide ainsi pour la création d'un plus grand nombre d'aires protégées au pays, pour aider la biodiversité à s'adapter à la crise climatique. Pour certaines espèces, ce sont les derniers refuges qui leur restent. C'était « Les parcs nationaux changent de visage », un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir.